Tout à l'heure, dans une des prières, quelqu'un disait: Seigneur, merci parce que tu as parlé à mon cœur de mon jeune âge. Quelqu'un d'autre disait: Seigneur, tu es venu me sauver, tu es venu me sortir de mon bourbier. Et c'est vrai qu'on le réalise pas sur l'instant. On le réalise des années plus tard. Moi, je me rappelle les premières fois que j'entendais quelqu'un prier comme ça dans l'église, je me disais: waouh, qu'est-ce qu'il a eu de la chance, lui. Moi, j'ai dû m'empêtrer comme je sais pas quoi pour finalement réaliser que Dieu m'aime. Mais pourquoi Dieu m'a pas parlé avant? Peut-être j'aurais évité certaines bêtises. Et c'est seulement plus tard que je me suis rendu compte de toutes les actions que Dieu avait menées pour me parler, mais je faisais la sourde oreille. Je ne voulais pas me laisser convaincre par Dieu. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Je vois que ça existe, ce dit-on, aussi en français. Et parfois, il y a des choses qui crient à nos oreilles, qui nous disent certaines vérités, mais nous, on les refuse, cette vérité. Ça vous est déjà arrivé? Vous savez, quelqu'un vous dit quelque chose, c'est vrai, mais le messager ne nous plaît pas. Ça nous énerve de devoir dire qu'il a raison. Donc, on s'arrête, on s'entête. Et on dit non, ce sera à tout prix comme j'ai décidé. Et après, plus on va de l'avant et plus c'est des dégâts. La parole de Dieu nous dit quelque chose et c'est Jésus lui-même qui nous parle dans l'évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 7 au verset 11. Et le titre du message de ce soir, c'est « Laissez-vous convaincre ». Laissez-vous convaincre. Non pas par moi, non pas par mes paroles. Je n'ai pas la prétention de pouvoir convaincre qui que ce soit et ce n'est pas à cela que Dieu m'a appelé. Mais je pense qu'il est important pour chacun d'entre nous, nous l'avons chanté au début de cette réunion, ouvre les portes, annonce, laissez Jésus entrer. Et dans les refrains, il y avait cette parole qui dit, ouvrez la porte à celui qui est le consolateur. Et c'est en effet du Saint-Esprit que nous allons partager ce soir, puisque Jésus l'annonce. Jésus fait une annonce alors qu'il est en train d'arriver au terme de son ministère ici-bas sur la terre. Il dira à ses disciples les paroles suivantes. Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Amen. Jésus est en train d'ouvrir la porte des cœurs, en disant à ses disciples, en disant au monde entier, « Moi, je ne vais pas rester ici-bas, j'ai une tâche à accomplir, c'est celui de mourir à la croix pour vous, de payer votre dette. » Mais certes, à 2000 ans de distance, on pourrait se dire « ça ne nous concerne pas trop ». On pourrait être tenté de se dire « c'est une histoire du passé ». Aujourd'hui, pour nous, on est dans des temps modernes. On a besoin d'autre chose. Mais Jésus savait très bien que l'œuvre de salut qu'il allait accomplir allait dépasser, je dirais, les générations, jusqu'au point de nous amener à cette rencontre avec Dieu. Et quand il nous parle de ce consolateur, c'est parce que Jésus sait dans quel état est le cœur de l'homme. La tristesse qui habite un cœur, quand malheureusement, il se rend compte qu'il s'est planté. Quand on a bien fait, on rentre à la maison heureux, n'est-ce pas? Quand on a réussi, alors là, on gonfle les poumons et on arrive, j'ai réussi. Mais quand on n'y arrive pas, ce n'est pas la même chose. Et réaliser qu'on a fait fausse route, réaliser qu'on s'est trompé, réalisé finalement qu'on s'est égaré, forcément ça crée une tristesse dans notre cœur. Mais le Seigneur a voulu envoyer un consolateur déjà pour nous dire « il y a de l'espérance ». Tu as connu la tristesse, tu as connu des dégâts dans ta vie, mais il y a quelqu'un qui peut réparer ta vie. Avez-vous déjà vu quelqu'un réparer une horloge? J'ai eu l'occasion de voir quelqu'un qui construisait les montres et cet homme était méticuleux. Vous savez, c'est des toutes petites pièces, c'est infiniment petit. Moi, je me dis heureusement qu'ils ont des bons yeux pour faire ça. Hein, il avait une loupe et il disait, ben, cette pièce, tu vois, il y a un petit défaut. Je lui ai dit, ben, si tu le dis. Ah oui, parce que tu vois, elle va perdre du temps. Donc, il changeait la pièce qui n'allait pas. Et finalement, cette montre, elle reprenait à fonctionner correctement. Il remettait de l'huile là où il fallait. Il n'en mettait pas là où il n'en fallait pas. Il fallait que tout soit parfait. N'est-ce pas? Il y a parfois des grains de sable qui se sont installés dans notre vie, qui font que ce mécanisme merveilleux et parfait que Dieu a créé pour nous, ça bloque. Il ne faut pas grand-chose pour qu'il y ait du sable dans le mouvement. Hein. Un peu de vent. Vous êtes déjà allé à la plage quand il y a du vent? Hein? Vous repartez, vous avez bien secoué votre serviette et vous vous rendez compte que vous en avez plein dans les chaussures. Si vous avez choisi de faire un petit pique-nique, mais votre pique-nique, il est un tout petit peu assaisonné au sable de la plage. Mais ça, c'est pour goûter le goût de la mer, pour garder le goût de la mer. Mais dans notre vie personnelle, dans notre cœur, dans notre âme, quand il y a un grain de sable, en effet, il vient perturber, empêcher que notre vie fonctionne de la bonne manière. Et des fois, ce n'est pas grand-chose, c'est tout petit. Tout petit. Jésus dira, moi, il faut que je parte, ça sera pour vous avantageux. Alors, j'imagine les disciples, et je comprends les disciples qui venaient de passer 3 ans avec Jésus, qu'ils n'avaient pas envie de voir Jésus partir. Non? Il y a quelques jours de cela, notre fille, elle nous a appelés. Elle était au travail. Elle nous dit, je viens de réaliser que d'ici un mois, je vais me marier, je ne serai plus avec vous, vous me manquez déjà. Et on a dû se mettre dans la voiture, on a dit, bon, on arrive, on va passer 5 minutes avec toi. Vous ne voulez pas passer? Mais oui, mais on a compris, c'était quelque chose, finalement, réaliser quelque chose. Et alors, je me suis dit, j'imagine le cœur des disciples à se dire, mais Jésus ne sera plus là, ça va être un vide. Vous savez, parfois, la nuit, quand je me réveille, je me lève, je vais voir si les enfants, ils dorment bien. C'est l'habitude, hein? On entend un, ok, oui, il dort bien, l'autre, elle dort très bien. Hein? Et on est rassuré, ça va. Mais à fur et à mesure qu'une maison se vide parce que les enfants prennent leur envol, on se dit, ah, avant, autour de la table, c'était très vivant. Hein? Et du coup, les choses changent. On n'aime pas les changements. Et Jésus est en train de dire à ses disciples, il y aura un changement radical. Là, vous m'avez, je suis à vos côtés, mais il y aura quelque chose d'encore plus grand, plus important pour vous. Vous m'aurez dans votre cœur. Et là, plus personne ne peut nous séparer de Jésus. Quand nous acceptons Jésus dans notre vie et nous acceptons l'action du Saint-Esprit dans notre vie, tout change. Alors Jésus annonce un départ. En effet, il est venu pour accomplir quelque chose. Il dira en Jean chapitre 10, versets 17 et 18, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie. » Afin de la reprendre, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Jésus accomplit ce sacrifice parfait, complet, pour que vous et moi, nous ayons une occasion de revoir notre vie, notre cœur, être remis en état. Plus loin, Jésus parlera de son sacrifice. Et la parole de Dieu nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1, les versets 19 et 20, il nous dit qu'il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Jésus, toute plénitude et de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre qui est ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sacrifice de Christ était nécessaire, inévitable, pour que nous puissions, nous, avoir une occasion de salut. Pour que nous puissions avoir une deuxième possibilité. Il fallait qu'il paye avec sa vie. Un prix qu'il fallait payer, la rançon de la justice. Vous savez, quand on voit que quelqu'un a fait quelque chose d'injuste, tant que cette personne n'est pas punie, on n'arrive pas à tourner la page. Il y a quelques jours, au journal, on voyait une personne dire « Voilà, tant que cette situation n'est pas passée en jugement, on n'arrive pas à tourner la page. On ne pourra pas. On ne peut pas faire le deuil de la situation. On ne se sent pas entendu. On a le sentiment que l'injustice règne. Eh bien, il faut comprendre que Dieu est juste. Et tant que nos erreurs n'avaient pas été payées, ben ce sentiment était là. La parole de Dieu nous dit que Dieu a donné son Fils pour nous, à notre place. Et Jésus est allé à la croix pour nous réconcilier avec Dieu, nous accorder l'occasion de faire la paix avec Dieu, nous donner une occasion de retrouver véritablement cette relation avec Dieu le Père. Jésus dira dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Payer une rançon. La rançon, c'est le prix qui est payé pour que quelqu'un soit libéré. On a été, ces dernières années, on a vu combien de fois des personnes ont été kidnappées et il a fallu payer une rançon pour les libérer. Et je voudrais vous dire que parmi ceux qui ont été emprisonnés par le péché, il y avait vous et moi. Quand on est dans ces conditions-là, on ne peut plus rien. Il y a des années de cela, j'ai rencontré un homme qui avait été kidnappé. En Calabre, c'était devenu un peu une coutume. Et cet homme était pharmacien. Il a été kidnappé. Et il a passé quasiment 2 ans dans un trou, percé dans la terre. Il y avait des tôles qui couvraient. On lui balançait la nourriture. Il ne pouvait pas se laver. Tout se passait dans ce trou pendant 2 ans. Et on connaissait cet homme et on a prié pour lui, on a demandé le secours de Dieu et certains, compte tenu de son état de santé, disaient certainement il est mort. Il est mort. Il ne peut pas être vivant. Il ne pourra pas vivre. Et on priait pour cet homme et cet homme, il a commencé à prier, à demander à Dieu secours. Et pendant qu'il était dans cette période d'emprisonnement, de captivité, il répétait dans sa tête les formules, étant pharmacien un peu traditionnel, herboriste, il se répétait dans la tête. Mais il disait, les moments où j'étais le plus encouragé, c'est quand je priais. Et il dit, quand je priais, j'arrivais à trouver les mots pour parler avec celui qui me gardait prisonnier. Jusqu'au point où un jour, il a accepté de prier avec moi. Voyez-vous. Pas évident de convaincre quelqu'un qui vous tient prisonnier à prier avec vous. Mais je crois que là aussi, Dieu est intervenu au point d'adoucir le cœur de cet homme qui le tenait prisonnier. Et finalement, par un ensemble de circonstances, cet homme a été retrouvé, libéré. Il est venu à l'église, remercier l'église pour les prières. Il était conscient de ce qu'il avait vécu. Et sa vie avait été modifiée à jamais. Jusque-là, tout allait bien. C'était un homme paisible, un homme qui n'a jamais fait du mal. Il essayait de donner avec ce qu'il avait reçu comme capacité d'aider les gens. Il était pharmacien, il était très gentil, très sympa. Mais quelque chose, un grain de sable est venu, tout cassé. jusqu'au moment où Dieu a commencé à restaurer son cœur, restaurer sa vie. Peut-être qu'il y a encore des choses dans lesquelles nous aussi, on se sent encore emprisonnés. Il faut accepter de dire, Jésus, je voudrais que tu payes la rançon, et je voudrais vous dire, il l'a déjà fait. Mais il faut accepter que cette rançon, elle était pour nous. Accepter cela. Alors Jésus dit, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, le Défenseur, qui viendra en effet vous convaincre. Convaincre de quoi ? Convaincre premièrement de péché, d'avoir loupé la cible. En effet, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas entendre parler de péché. Le mot péché, on a tendance à vouloir le faire disparaître. Tout ce qui n'était pas bon avant, maintenant, vous avez vu, il y a bien des choses qui passent, qui sont votées. Et 10 ans en arrière, on aurait crié au scandale. Et maintenant, c'est devenu logique, normal. C'est presque pas juste que les choses aient tellement tardé. Et la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, le mal sera appelé bien et le bien sera appelé mal. Convaincre de justice, la nécessité d'un sauveur. En effet, l'homme ne peut pas se sauver par soi-même. Il ne peut pas se soustraire au jugement de Dieu, même pas à cause de ses bonnes actions. Parfois, il nous arrive de créer, de dire tout ce qui nous semble pour nous juste et de nous faire une justice propre. Et ça s'appelle les propres justes. Ils ont toujours raison. Heureusement, on n'est pas comme ça. C'est vrai ? Il n'y a personne qui croit avoir toujours raison, j'espère. Il n'y a personne qui se dit, moi, on me raconte ce qu'on veut, mais comme j'ai une vie tellement bien rangée, je n'ai jamais fait rien de mal, je n'ai jamais volé personne, je n'ai jamais tué personne. Un jour, je me trouvais à discuter avec un homme, et il me disait, vous savez, monsieur, moi, je suis sûr d'aller au paradis. Ah oui, bon, ok, ben très bien, c'est bien, bien pour vous. Et vous êtes en paix avec Dieu? Ah non, non, moi je ne crois pas en Dieu. Ah bon? Alors je dis, il y a un problème, parce que dire que vous allez au paradis, alors que c'est quelque chose que Dieu a créé, et vous ne croyez pas en Dieu, je ne comprends pas un peu votre logique. Alors il m'explique toute une théorie. Je dis, ben écoutez, c'est de la théorie, pratiquement, vous pouvez me prouver que... Ah ben non. Je dis, pourquoi vous ne croyez pas en Dieu? Ben je suis athée. Ah bon ? Je lui dis, vous savez, il faut beaucoup de foi pour être athée. Pourquoi ? Je lui dis, parce que tout vous montre que Dieu existe. Il faut juste être prêt et accepter de se laisser convaincre. Tout vous parle de Dieu. Et on a commencé un peu à dialoguer et finalement, ben, il est revenu un peu sur sa position. Il est revenu aussi dans l'idée de dire, j'ai besoin d'un sauveur. Quand la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit viendra nous convaincre, convaincre de péché, convaincre de justice, convaincre de jugement. La parole de Dieu nous parle de ce jugement qui a été déjà proclamé, ce jugement qui a été déjà placé pour Satan. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Si vous avez fait attention à ce que nous avons chanté, ce n'est pas que des mots. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous proclamons sa victoire. Et nous avons parlé de cette œuvre que Jésus a faite en allant à la croix pour vaincre le péché. En effet, pour vaincre le péché, il fallait que quelqu'un meure sans avoir jamais commis de péché. Et Jésus n'a jamais commis de péché. Le juste a payé pour les injustes. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être accusé injustement ? Qu'avez-vous fait ? Sérieusement. Ah, c'est vrai. On se met en colère, on dit, attends, hé, c'est pas moi. Regardez, posez la question aux enfants, il y a une bêtise qui a été faite. C'est qui ? C'est pas moi. Vous ne saurez jamais qui c'est. On a tendance à ça. Et même si on est coupable, on se dit en disant « c'est pas moi », peut-être je vais réussir à me défiler, à éviter d'être puni. Quand La parole de Dieu nous dit que Jésus n'a fait aucun péché et qu'il est allé, lui, juste mourir à la croix. C'est une réalité tellement grande que même au moment où ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés, son côté a été percé, son front a été percé par des épines, son dos avait reçu des coups qui nous étaient destinés. Jésus a pu dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Wow. Moi, des fois, je me dis que nous, on nous marche sur l'ombre de l'ongle du pied, on hurle au scandale. Jésus n'agira pas comme ça. Quand la parole de Dieu nous parle du jugement de l'ennemi, il nous parle aussi de cette disponibilité qui doit être la nôtre à nous laisser convaincre par Dieu. Mais imaginons qu'on refuse de se laisser convaincre. Imaginons que là, même ce soir, vous entendez parler de Jésus, vous dites c'était bien, c'était sympa, mais il ne m'a pas convaincu. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon but de vous convaincre et ce n'est pas à moi de vous convaincre. Mais c'est à vous d'avoir le courage de dire « Dieu, je veux te laisser parler à mon cœur. » Osez le faire et vous verrez la différence. Osez, prenez le risque. Prenez le risque de dire à Dieu « Seigneur, parle à mon cœur. » Et vous verrez ce qui va se passer, comment les choses vont se produire. Parce qu'il faut être conscient que celui qui ne se laissera pas convaincre par Dieu, c'est qui s'est déjà laissé convaincre par Satan. Et comme le jugement concernant Satan a été déjà annoncé, et comme Satan a déjà été vaincu, il faut savoir quelle est la suite. Avec Dieu ou avec Satan. Vous savez, il y a une chanson, je ne sais pas qui c'est qui a inventé cette chanson, mais je pense que cette personne, elle a dû déjà peut-être expérimenter lui-même qu'il a raconté une bêtise. Cette chanson disait « On ira tous ». C'est très réducteur. Ça veut dire qu'à quelque part, celui qui a commis des meurtres, celui qui a fait des choses horribles, et qui n'a jamais réglé cette dette, ira au paradis avec celui qui n'a jamais rien fait. J'utilise une image. Le violeur sera dans le paradis avec la personne qui a été violée. Est-il possible pour vous? Est-ce qu'il y a une justice là-dedans? C'est impossible, non? Pour que cette situation puisse véritablement se régler, il faut qu'à un certain moment, la personne qui a commis un tel acte demande pardon, prenne ses responsabilités. Et devant Dieu, il demande à Dieu le pardon le plus profond dans son cœur, qui est une repentance véritable. Mais pour ça, il a besoin déjà de se laisser convaincre. Et c'est pour ça que Jésus enverra le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs, parce que le but de Jésus, c'est que vous et moi, nous soyons vraiment au paradis avec le Seigneur. Mais si on s'est laissé convaincre ou on a voulu rester dans une position qui est la nôtre. La lettre aux Colossiens, au chapitre 2, les versets 7 à 15, dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'aimerais vous donner une image, Colossiens chapitre 2, verset 7 à 15, hein, nous venons de lire. Quand dans la période romaine, le vainqueur revenait d'une campagne de bataille, En effet, ce général était attendu, et derrière lui, pas seulement les troupes qui avaient vaincu étaient là, étaient accueillies en triomphe, mais il entraînait derrière lui les rois qui avaient été vaincus. Il les amenait en prisonniers. Et ces rois étaient amenés en apportant des dons, mais surtout en portant des chaînes. Quand la parole de Dieu nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, alors que les hommes pensaient mettre Jésus à la croix et régler son compte et lui empêcher de vaincre, en réalité, à la croix, Jésus a vaincu le péché pour vous et pour moi. Il a fait une œuvre que l'ennemi ne s'attendait pas. Et en ayant dépouillé l'ennemi de ce pouvoir qu'il avait sur les âmes, à partir de ce moment, Jésus, quand il est allé auprès du Père, c'est cette marche triomphale qu'il a eue en arrivant auprès du Père en disant « Père, tout est accompli. Satan est vaincu. Les péchés sont pardonnés. La maladie a été changée en guérison. Tout est accompli pour vous, pour moi. Rien ne peut nous retenir de rentrer dans cette œuvre de salut, sauf notre cœur. Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, je veux saisir la main de Christ pour être sauvé? Vous savez, à l'image de cette bouée de sauvetage, quelqu'un qui se trouve dans un naufrage et que finalement trouve quelqu'un qui lui jette une bouée de sauvetage. Je peux vous dire que le premier réflexe, c'est celui de la vie, n'est-ce pas? Un jour, quelqu'un me disait, avant j'étais athée. Je lui dis, comment ça a changé? Il dit, le jour que j'ai eu un accident. Ah bon, pourquoi? Il dit, parce que du coup, j'ai crié au Dieu, aide-moi. Conversion rapide, changement rapide. Il dit, à partir de là, je ne pouvais pas dire que Dieu n'existe pas, puisque je venais de l'appeler et il m'a secouru. Peut-être que nous sommes en pleine tempête et Jésus est en train de lancer aujourd'hui une bouée de sauvetage. Il est question d'obtenir le secours d'un avocat. Le texte que nous avons lu en dernier dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant la croix. Ce qui nous empêchait de rentrer dans cette relation avec Dieu, de finalement retrouver la paix avec Dieu et être sauvé, ça a été cloué à la croix. Et le Seigneur voudrait vraiment que nous puissions faire partie de cette entrée triomphale avec lui. Puisque Jésus a vaincu, Paul dira, nous avons vaincu avec Christ. La question est pour nous de dire, Seigneur, je voudrais m'approcher de toi. Alors peut-être que encore les choses ont besoin de grandir dans votre cœur, mais je voudrais vous inviter à faire une prière avec moi ce soir. Si c'est vraiment votre désir de tirer au clair votre vie avec Christ, je voudrais vous inviter à dire au Seigneur et à demander que le Saint-Esprit vienne vous convaincre. Et je voudrais vous dire, laissez-vous convaincre par Dieu. Laissez Dieu vous parler. Certainement dans les heures, dans les jours qui suivront, quelque chose viendra interpeller vos pensées. Quelque chose viendra interpeller vos sentiments. Et ce quelque chose, c'est le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Il viendra parler à votre conscience. Il viendra vous interpeller sur des choses précises que seulement vous connaissez et Dieu connaît. Et à ce moment-là, ne faites pas l'erreur de dire non, c'est pas vrai, parce que vous savez, il connaît toute la vérité. Mais saisissez l'occasion pour dire, Seigneur, viens à mon secours. On va fermer nos yeux quelques instants. Et si quelqu'un ce soir avait besoin de faire cette expérience avec Dieu, si quelqu'un ce soir avait besoin de prendre cette bouée de sauvetage, si quelqu'un avait besoin ce soir de l'intervention de Dieu, pour que sa vie soit restaurée, pour que le grain de sable soit enlevé. Je vous invite à prier avec moi quelques instants. Père Céleste, et Dieu miséricordieux. Tu es le seul qui a tout pouvoir et toute autorité. Nous avons chanté que nous ouvrons les portes et portes de notre cœur. Seigneur, et nous désirons que tu puisses rentrer pour y régner. Tu n'es pas un invité quelconque. Tu es celui qui doit diriger notre vie. Tu es celui qui désire, Seigneur, transformer notre vie. Seigneur, ce n'est pas avec un raisonnement humain que nous pouvons comprendre tout cela. C'est avec la foi. Seigneur, ce que nous venons de partager, ce que on vient d'entendre, Seigneur, ce que ta parole nous dit, Seigneur, c'est que ce n'est pas le raisonnement qui va nous convaincre, mais c'est le consolateur. Alors, Seigneur, encore pour tous ceux et celles qui ont osé prier, Seigneur, viens me convaincre. Ceux qui ont voulu, Seigneur, véritablement faire cette expérience encore ce soir, je te prie que dans les heures, dans les jours qui suivent, tu puisses te révéler à leur cœur. Tu puisses les interpeller, Seigneur. Tu puisses les convaincre. Seigneur, et qu'ils puissent, Seigneur, véritablement saisir ta main pour la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore pour tout ce qu'elle nous apporte, pour tout ce qu'elle nous enseigne, Seigneur. Oui, Seigneur. La chose plus terrible, c'est que le monde se trouve encore aujourd'hui à ne pas croire en toi. Seigneur, et à ne pas accepter de, Seigneur, de te suivre par la foi parce qu'il ne te voit pas. Seigneur, c'est avec simplicité de cœur que nous voulons te dire, Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur pour que nous puissions réaliser ton amour, ta bonté, ta grâce, et qu'à toi et à toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.